France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, même le canal 27 de la TNT. Alors juste au départ, un petit salut à une génération, voilà, à laquelle j'appartiens et d'autres aussi appartiennent, et surtout un disque qui a marqué donc une génération et puis les enfants de cette génération. Cette semaine, figurez-vous que l'album Nevermind de Nirvana fête ses 25 ans. Voilà, un cri, une force, une rage et 25 ans quand même, oui. Un son qui explose des conventions, un désespoir, et mais 25 ans quand même, et oui, c'est ça qui est affreux. Et là, d'un coup, une question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes t-shirts Wikiki que je portais à l'époque, je ne sais pas. Mais 25 ans, ça fout comme un coup de vieux pour commencer la semaine. En tout cas, eux, ils n'ont pas un coup de vieux, pas encore, et ils sont portés par une envie d'info. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Alice Giraud. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au journal en ligne Les Jours, également le député et conseiller régional d'Île-de-France socialiste Carlos da Silva. Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Urvois de West France. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, quatre débats du début d'automne, même s'il fait chaud quand même pour la saison. Clinton-Trump, premier épisode de l'affrontement final. Fermeture des voies sur berge dans la capitale. Paris vaut bien une paire de baskets. Calais, étape présidentielle. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Une fois sa mission au ministère du Travail terminée, Myriam El Khomri pourra ouvrir un stand de montagne russe. Plus forte baisse du chômage depuis 16 ans en avril. Et aujourd'hui, les chiffres du mois d'août montrent la plus forte progression du chômage depuis 2013. 50 200 demandeurs d'emploi en plus. Une situation sociale tendue. Si on rajoute à cela le dossier Alstom, semaine cruciale, avec grève des employés demain. Au même moment, le PDG d'Alstom sera entendu par une commission à l'Assemblée nationale. Une direction qui parle toujours de redéploiement et non de licenciement. On parle d'annonce d'ailleurs en fin de semaine, même si depuis le début de la soirée, Alstom a annoncé avoir gelé justement son plan concernant Belfort, attendant les annonces de Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie. Mais pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, il faut frapper plus fort.
Les salariés d'Alstom sont victimes d'une non-stratégie de politique ferroviaire, que ce soit industrielle ou maillage territorial. Des gouvernements successifs ont fait beaucoup de bruit sur l'environnement, beaucoup de communication sur l'environnement, mais la réalité montre que, eh bien, on détruit le maillage territorial ferroviaire en France. C'est valable pour le fret, c'est valable pour le transport des voyageurs. Et donc, oui, il y a complicité entre gouvernement et direction successive pour casser un bel outil industriel.
Voilà, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT à propos d'Alstom. Alors forcément, Carlos da Silva, avant de parler d'Alstom, il faut parler de ces chiffres du chômage. C'est de nouveau en hausse, une forte hausse tout de même. Là, on se dit, on a l'impression qu'on ne voit jamais le bout du tunnel finalement.
Le redressement de la France prend du temps. Moi, je pense d'abord évidemment aux dizaines de milliers de personnes frappées par ce fléau. Je constate aussi que sur une année, ça n'est pas le cas. On a une baisse et tant mieux. Mais ce mois est extrêmement difficile. Ce sont les chiffres du mois d'août. J'imagine, mais on en saura plus dans les heures et les jours qui viennent, que, évidemment, les attentats terribles du mois de juillet, la baisse de la fréquentation touristique, notamment dans les endroits où ont lieu ces attentats cette dernière année, est à la source de cette augmentation du chômage. Moi, je veux me raccrocher aux chiffres qui montrent qu'il y a eu des embauches en croissance sur les contrats à durée indéterminée ou de plus de un mois. Et donc, évidemment, cette bataille, elle est longue. Sur la dernière année, elle est plutôt gagnée, mais sur ce mois, c'est extrêmement difficile.
Michel Urvois, sur ces chiffres.
C'est bon. Politiquement, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle et un mauvais moment. Si on regarde les chiffres d'un point de vue macroéconomique, on s'aperçoit qu'il y a de la création d'emplois dans ce pays, à peu près 150 000 sur l'année. Et il y a aussi du chômage qui augmente. Tout ça, ça a l'air contradictoire.
Ben, complètement. Oui.
Mais ça ne l'est pas parce que la population en âge d'avoir un travail augmente. C'est-à-dire qu'au lieu d'en créer 150 000, il faudrait en créer le double pour avoir une chance de, ben justement, d'inverser la fameuse courbe qui devient une rengaine un peu ridicule. Alors ça, c'est d'un point de vue macroéconomique, mais pour les gens, évidemment, et pour les gens concernés, eux, ils voient pas les choses du tout de la même façon. Donc ça veut dire qu'il faudrait un redressement extrêmement spectaculaire pour que ça soit perçu et qu'il y ait aussi une inversion de la courbe des sondages. chômage.
Alice Géraud, justement, on a l'impression, c'est vrai qu'on les commande souvent ces chiffres du chômage, parce que aussi François Hollande lui-même en a fait une condition pour sa candidature. C'est toujours lié, c'est forcément à ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un coup dans l'aile, justement, dans la candidature éventuelle, bien sûr, de François Hollande?
Ouais, c'est peut-être une mauvaise nouvelle politiquement, mais enfin, c'est comme on le disait, c'est surtout une mauvaise nouvelle pour les gens qui sont au chômage. Et je ne sais pas si les commenter chaque mois comme ça, ça donne du sens à cette problématique et d'en faire une condition. Il y a quelque chose d'un peu cynique là-dedans. On ne s'attendait pas à ces chiffres-là au mois d'août. Là, on parle beaucoup des attentats depuis ce soir. Jusqu'ici, on n'avait pas parlé de l'effet sur les attentats. Le mois d'août, c'est quand même le mois où il y a le plus de radiation. Donc d'habitude, ce n'est pas un si mauvais mois. Et les prévisions de l'UNEDIC, à long terme, elles ne sont pas très bonnes. Enfin, sur l'année prochaine, normalement, ça ne devrait pas être mauvais, là, parce qu'il y a eu beaucoup de contrats aidés. Mmh. Il va y en avoir beaucoup au second semestre.
C'est ça qui frappe, en fait.
C'est un plan de formation de 500 000 personnes. Ça devrait être plutôt bon, et ça l'est pas, et a priori ça sera pas bon en 2017, donc c'est extrêmement inquiétant pour les gens qui sont en chômage.
Bien sûr, oui, c'est ça. François Orcival.
Il faut se dire que en 7 mois, on avait diminué le nombre de chômeurs de 75 000. Mmh. 75 000 en 7 mois. En un mois, il vient subitement d'augmenter à nouveau de 50 000. Ce que vous dites est vrai. Au mois d'août de l'année dernière, mois d'août 2015, le chômage était net, enfin l'emploi était dans une situation nettement meilleure. C'est pour ça que c'est un choc, ce 50 000. Le chiffre est très important, mais c'est un choc parce que, naturellement, rien ne le laissait prévoir. Or, nous nous trouvons manifestement dans une situation générale où la confiance n'est pas là de retour.
Et Carlos Silva, c'est ça qui frappe, en fait, c'est le côté fragile. C'est-à-dire que d'un coup, on commente une hausse, une baisse, on a l'impression que c'est difficile de se projeter.
C'est très difficile de se projeter, d'abord parce qu'il y a ce manque de confiance. Moi, je ne veux pas tout imputer, évidemment, à la situation internationale et à ce qui s'est passé sur le sol français. Mais évidemment, ouais, ça pèse sur les morales des familles, ça pèse sur la vie des entrepreneurs. Mais globalement, réindustrialiser la France, remettre de la fluidité, des liquidités, faire en sorte que la machine reparte, je ne veux pas dire que ça se fait, évidemment, sur 10 ou 15 ans. Mais en tout cas, il faut du temps. Ouais. Et la vérité, c'est que ce plan de relance de l'économie, en réalité, il n'est en place que depuis la décision de François Hollande. Alors, qui date de fin 2013, début 2014.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la situation sociale qui ce soir s'est un petit peu plus tendue, notamment avec l'annonce des chiffres du chômage. C'est une nouvelle augmentation. 50 000 chômeurs en plus au mois d'août. Michel Hervois, vous vouliez répondre à ce que disait Carlos Da Silva.
Oui, mais c'était pas pour le contredire, c'était pour noter que parmi les explications, il y a quand même, je pense, la question de la formation et de l'apprentissage. Je suis frappé. Je regarde ce qui se passe dans les régions de l'Ouest, que je regarde un peu plus attentivement,
oui, bien sûr,
que d'autres.
Vous êtes de West-France.
Je suis frappé par le décalage qu'il y a entre l'offre et la demande. Je suis frappé par le nombre d'entreprises qui disent « je n'arrive pas à recruter ». Alors, il y a peut-être une question de salaire, je ne sais pas. Il y a peut-être des questions liées à la mobilité. Mais ce que je veux dire, c'est que les politiques qui ont été mises en œuvre, sans juger de leur validité, elles ont en tout cas beaucoup de retard. Elles sont très lentes à produire des effets.
Carlos Da Silva, après Ligio.
Non, mais en deux mots, je partage ce que vient de dire Michel Hervois, parce que effectivement les réformes, je ne sais pas si on peut parler de réformes d'ailleurs, mais en tout cas les mutations de l'éducation nationale au sens large sur ces questions que vous évoquez, sont pour le monde aujourd'hui, à la vitesse à laquelle il va, beaucoup trop lentes. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver davantage de souplesse, ce qui n'est jamais évident quand on parle de l'éducation nationale, mais je pense que c'est un des défis qui viennent, c'est comment on assouplit tout ça pour que ça aille beaucoup plus vite et que ça corresponde à la demande.
Alors Aligéo, vous vouliez
On reste assez longtemps sur des sujets, et il se trouve qu'on passe un an dans un lycée professionnel cette année en Seine-et-Marne, et on voit bien à quel point il y a effectivement un décalage à long terme sur l'orientation des jeunes qui sont orientés pas du tout, pas toujours en tout cas, et très peu souvent même, pour être précise, en fonction et de leur choix personnel et de ce qu'il y a et de formation adaptée au marché du travail. Et à long terme, ça produit, ça produit des chiffres qu'on commentera dans 5 ans, dans 10 ans. C'est assez terrible.
François Orcival, moi j'ai une question à propos justement de la semaine sociale. On a parlé là du chômage. Et forcément, aujourd'hui, il y a un nom qui revient depuis le début du mois de septembre, c'est Alstom. Alstom, cette semaine, va vivre une situation sociale particulière. Demain, une grève, une audition du PDG à l'Assemblée nationale. Ce soir, le plan est gelé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'affaire est davantage politique qu'économique?
Elle est évidemment, son démarrage est économique. sa suite est devenue politique. Et au fond, de la volonté même de la direction d'Alstom, à mon sens. Parce que ceci se produit le 8 septembre, l'annonce de la fermeture, en tout cas de la non-construction désormais de locomotives à Belfort, et probablement de la fermeture du site ultérieur. Maintenant, nous sommes dans une situation de gel en attendant la fin de la négociation. Ça n'est pas « je suspends mon plan ». Ça signifie simplement « j'attends de savoir ce que les pouvoirs publics vont faire ». Vont faire comme actionnaires de la SNCF, vont faire en tant que puissance publique. Et à partir de ce moment, il est évident que nous sommes passés à l'étage politique. Mais je pense que c'était le vœu de la direction d'Alstom.
Et pourquoi ?
Mais parce qu'il voulait secouer l'actionnaire en disant « Écoutez, il y a des mois qu'on vous raconte que la situation est en train de se dégrader malgré les contrats ici et là. Vous ne faites rien ou vous n'entendez pas. On va rendre ça public, vous allez voir. »
Oui, Michel Urvoy.
Je suis assez d'accord avec cette hypothèse.
Ah, très bien.
Voilà, merci, Michel.
Non, mais c'est beau,
parce,
c'est très bien.
Non, parce que effectivement, la question d'Alstom-Belfort, qui n'est pas la question de tout le groupe Alstom, va bien, dont les implantations à l'étranger ont du travail, etc. C'est ce trou de 3 ans d'inactivité qui est lié à des commandes qui ne démarrent pas ou à des appels d'offres qui ne sont pas encore lancés. Donc il y a un problème de lenteur, je pense, et je soupçonne. Sans avoir de preuves, évidemment, mais je soupçonne l'État d'avoir eu connaissance de la situation et n'avoir rien dit. Et je soupçonne la direction, les actionnaires, de profiter de la période électorale pour provoquer pour accélérer le processus.
Carlos Sivan, on l'a beaucoup entendu, ça. Finalement, que le gouvernement aurait été au courant, finalement, qu'on retarde le processus. Pour vous, aujourd'hui,
Je crois le gouvernement, quand il dit qu'il n'était pas au courant, je vois pas bien l'avantage. Autant je peux voir l'avantage qu'en aurait tiré la direction, autant je vois pas trop l'avantage qu'en aurait tiré le gouvernement. D'abord, je note une chose, c'est que ça fait du bien parfois d'avoir l'État actionnaire, même si c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait décidé comme bref ministre de l'économie. On est content de l'avoir comme actionnaire. Deuxièmement, effectivement, Alstom se porte pas mal globalement. Et donc les choix qui ont été faits aussi ces dernières années étaient plutôt les bons. Moi, si vous voulez que la puissance publique se mette d'accord entre elles pour faire continuer à vivre une entreprise comme celle-là, ça me va bien. Par ailleurs, je note aussi, et c'est aussi le paradoxe avec le sujet précédent qu'on a abordé, que quand on regarde Alstom qui va plutôt bien sur l'ensemble des sites, les chantiers qui sont plutôt avec beaucoup de commandes de navires ou d'assaut aviation pour ne pas le citer, dont on vend les rafales, globalement, il y a aussi une industrie française, je dirais pas qu'elle est florissante, mais qui est en train petit à petit de remonter la pente. Et c'est intéressant. Sur ce dossier, moi j'en dirais pas plus. L'État a dit qu'il allait s'engager, il s'engage. Attendons les annonces de fin de semaine.
Voilà, on devrait avoir des nouvelles fin de semaine, même peut-être un peu plus tôt. On nous a annoncé ce soir. Et justement, on parle beaucoup de Belfort. On va également parler pendant cette campagne et pendant finalement cette pré-campagne beaucoup de Calais, puisque après tout nous sommes en France et les mots sont importants. Le duel à distance entre François Hollande et Nicolas Sarkozy tourne à la sémantique, puisque bientôt Alain Rey se fera chroniqueur politique. Au débat sur l'identité française, le président de la République a répliqué « idée de la France » et à Jungle de Calais, le chef de l'État préfère « lande de Calais ». Oui, en visite ce matin à Calais, François Hollande a donc promis que le campement de la lande de Calais, où survivent 7300 personnes, sera démantelé, comme l'avait annoncé Bernard Cazeneuve, avant la fin de l'année, sans préciser le calendrier. Une visite qui, mais c'est un hasard, intervient 5 jours après celle de Nicolas Sarkozy. François Hollande a eu beau dénoncer l'instrumentalisation politique autour de cette question. Nous sommes taquins et nous ne pouvons nous empêcher de voir là une visite de campagne de François Hollande. Et forcément, les Républicains, par la bouche de Christian Jacob, critiquent la visite à Calais du chef de l'État.
C'est un peu pathétique, il a toujours un coup de retard sur tout. On le voit, ne pas être allé à Calais pendant 4 ans et demi et se préoccuper du sujet à 8 mois des présidentielles, quand même, un peu de décence, on a envie de dire. Moi, je comprends la colère des Calaisiens en disant on le voit parce qu'on a 8 mois des élections et pendant 4 ans et demi, c'était pas un sujet pour François Hollande et ça le devient là.
Voilà, le président de groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Alors, Ali Géraud, pour vous, vous avez vu ça comme une visite de campagne ?
Oui, ça ressemble à une visite de campagne, cela dit, en termes de pathétique. Le débat qu'entretient Christian Jacob est tout aussi pathétique. Donc, effectivement, il ne s'est jamais rendu à Calais. Alors après, c'est pas parce qu'on ne se rend pas sur des lieux qu'on n'a pas de, voilà. Il s'est peu exprimé sur ce sujet-là. Il vient 5 jours après Nicolas Sarkozy. Voilà. Non, mais surtout, il n'a pas dit grand-chose, en fait. Il n'a pas dit grand-chose ce matin dans son discours. Non,
il a mis à l'amende la Grande-Bretagne.
Voilà, oui, mais sur quoi, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, non, mais c'est extrêmement flou. Ils parlent de qu'ils prennent part, voilà, qu'ils prennent part. On pense qu'il fait référence aux mineurs isolés, mais il aurait pu avoir une parole forte sur la question des mineurs isolés. Il y a 1000 enfants à Calais qui sont livrés à eux-mêmes. On aurait pu s'attendre, effectivement, en s'intéressant au sujet, qu'il ait une parole forte. Là, il faut un traducteur pour savoir si prendre part, ça veut dire faire référence aux mineurs isolés. C'est assez cruel, en fait, comme non-dit.
Alors, on va y revenir dans un instant. Juste, je précise, mineurs isolés, c'est-à-dire ce sont des mineurs dans le campement de Calais dont les familles seraient en Grande-Bretagne actuellement. Très bien. Voilà. Bon.
Non, mais voilà la situation des enfants isolés, c'est des enfants qui n'ont pas de parents, pas de famille.
Ou alors, il y en a certains qui sont à l'origine.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Ali Géraud du journal en ligne Les Jours, le député et conseiller régional d'Île-de-France socialiste Carlos Da Silva, également Michel Auvois de Ouest-France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Justement, François Dorcival, cette visite de François Hollande à Calais, certains disent voilà opportunisme, au contraire d'autres ils disent bah, c'était bien qu'il y aille aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'en ai pensé qu'il y avait un autre personnage politique important auprès de lui, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, oui, dont c'était le 9e voyage à Calais pour lui. François Hollande, lui, n'a fait que répéter ce qu'on a entendu pendant les 8 visites précédentes du ministre de l'Intérieur, ce qu'il avait dit lui-même. Et donc l'évacuation à la fin de l'année supposée, tous les ans, ça revient. Le problème de François Hollande, c'est le crédit dans l'opinion. C'est la traduction de ce qu'il dit dans l'opinion. Et à partir du moment où ce qu'il dit n'est suivi par rien du tout, effectivement...
Mais là, ça devrait, puisqu'ils ont annoncé finalement le démantèlement de la jungle.
Oui, mais alors précisément, on va voir ce qui va se passer. Et s'il s'agit simplement de disperser les 7 300, 8 000, 9 000, 10 000 personnes
7 300,
qui sont,
oui.
Tous les chiffres sont donnés, jusqu'à 11 000 personnes qui se trouvent à Calais ailleurs, l'opinion ne fonctionnera pas, ne marchera pas.
Carlos Da Silva, sur cette visite, voilà, vous l'entendez aujourd'hui. Est-ce que François Hollande, finalement, aujourd'hui, il venait pour l'inauguration d'un port, à Calais, et aujourd'hui, finalement, est-ce que vous trouvez qu'il a fait des annonces? Est-ce qu'il a été à la hauteur de cette visite?
Mais d'abord, la situation, elle est extrêmement compliquée. Je dis pas ça comme une phrase bénigne. Elle est extrêmement compliquée et jusqu'à preuve du contraire, elle existait sous une autre forme, sous le gouvernement précédent, qui n'a d'ailleurs fait que l'empirer. Et on sait très bien.
Et celui-ci aussi.
On sait très bien.
Ça,
honnêtement, non, on peut pas dire ça.
On peut pas dire ça. D'abord, parce qu'il y a plus de... ils étaient 4 000 il y a 2 ans.
On peut pas dire ça parce qu'évidemment, ça n'est pas les mêmes. Évidemment, ça n'est pas les mêmes. Et la crise des migrants, si vous voulez, on peut pas dire qu'elle se soit améliorée et pas du fait de la France au niveau mondial et européen depuis 2012. Et ça n'est pas François Hollande qui en est le responsable. Toujours est-il que le sujet est épineux. Il est d'abord, pour les Calaisiens et pour les migrants qui sont là, il est terrible. Mais enfin, le président de la République, il a raison d'y aller. Et il a raison d'y aller avec son ministre de l'Intérieur. Il ne va pas attendre que la primaire des Républicains soit finie, surtout ne rien dire, être complètement congelé jusqu'à quand il décidera de se présenter ou pas à la primaire de gauche pour être candidat. C'est normal qu'il soit là. Maintenant, je partage une phrase que vous venez de prononcer, M. Dorcival. Il faut des réponses. Les réponses, c'est 164 centres d'accueil ouverts sur le territoire national. Évidemment, pour que la France remplisse les engagements qu'elle a pris des autres pays européens. Ça me paraît normal. Mais évidemment, ça se fait pas comme un coup de balai. Parce que le coup, je règle tout, je raccompagne tout le monde, je mets les Anglais là.
Vous avez raison, ça ne se fait pas comme un coup de balai. Mais à la veille des élections régionales, vous savez très bien que de 7 000 migrants à Calais, on les a ramenés à 4 000. On en a donc dispersé 3 000 qui sont immédiatement revenus après.
Alors, Michel, on voit juste une question. On parlait tout à l'heure avec Ali Géraud de François Hollande qui a cité quand même la Grande-Bretagne au point de vue humanitaire. Il faut savoir que c'est la Grande-Bretagne qui finance aujourd'hui le fameux mur à Calais, le long de l'autoroute, qui est de plus en plus critiqué. Ce mur, même Natacha Bouchard, la maire de Calais, dit que ça ne sert à rien. Finalement, est-ce que c'est en effet, c'est vraiment quelque chose qui va faire pchit, comme a dit l'ancien président de la République, ça a un effet quelconque ?
Non, mais il faudrait mettre un mur sur toute la côte française et sur toute la côte européenne. Je veux dire,
il y en avait un.
Oui, il y en a eu autrefois. Mais non, c'est une solution qui, pour moi, n'a pas de sens. La solution, elle est évidemment politique, c'est-à-dire qu'elle est dans la négociation de qui prend réellement en charge le contrôle de la frontière et le contrôle des flux et de la répartition des personnes selon qu'elles sont en situation régulière, irrégulière, elles sont réfugiées, qu'elles sont
C'est que ça semblait plus simple quand c'était au sein de l'Europe. Maintenant qu'il y a les Britanniques ont pris leur liberté.
Non, parce que la liberté de circulation, Londres n'est pas dans l'espace Schengen. Donc la question de la liberté de circuler ne se pose pas de la même manière entre Calais et Douvres qu'elle se pose entre l'Italie et la France. Donc politiquement, c'est beaucoup plus compliqué et c'est là que ça nécessite probablement de taper diplomatiquement du poing sur la table. Pour aller discuter avec Londres. Mais alors, physiquement, ce mur n'a pas de sens autre que symbolique.
Allez, Géraud, on l'a entendu tout à l'heure par la voix de François Lorcival. Est-ce que c'est possible d'évacuer le campement quand on voit que certains présidents de région, en effet, freinent des cas de fer pour accueillir des fameux CAO qui pourraient, dans les différentes régions, dans les différentes régions de France?
Mais c'est une politique et des réactions de n'importe quoi du début à la fin. Le démantèlement en soi, c'est pas une politique d'immigration, c'est pas une politique face aux migrants. On a déjà démantelé Sangatte en 2009. C'est pas une politique. Alors se dire que ceux qui peuvent prétendre
après l'avoir fermé en 2002.
Voilà, exactement. Ça fait 15 ans quand même. Là, ça commence à être long. Et ce sont des décisions politiques qui. Enfin moi, c'est ce que je trouve préoccupant, qui sont complètement déconnectés de la réalité des souhaits des migrants. Et on fait comme si on pouvait les déplacer, les mettre là. Ils reviendront toujours. Là, en l'occurrence, une partie des migrants n'ont pas, le ministère de l'Intérieur dit toujours cette expression, n'ont pas vocation à rester, mais ils n'ont pas, la plupart n'ont pas envie de rester sur le sol français.
Bien sûr.
Donc, on fait comme s'ils venaient, ils voulaient absolument s'installer en France, alors on ne veut pas qu'ils s'installent en France. Enfin, on est vraiment dans le n'importe quoi sur la réaction. Sur les présidents de région, si on prend l'exemple de la région Rhône-Alpes, par exemple.
Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse.
C'est ridicule.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés. Et oui, allez-y, on zappe canal 24 de la TNT. Non, 25, 26, et oui, 27, ça y est, vous y êtes. Vous nous voyez, voilà, nous sommes très bien habillés pour l'occasion. C'est France Info en radio et en télé. Et jusqu'à 21h, nous recevons Ali Géraud du journal En Ligne Les Jours, le député et conseiller régional socialiste Carlos Da Silva, Michel Hervois de Ouest France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Juste avant de passer à notre prochain débat, nous étions en train de parler de Calais, Carlos Da Silva, j'avais une question pour vous sur les conséquences finalement politiques de ce débat, notamment de Calais. On parle beaucoup d'identité nationale en ce moment. Aujourd'hui, il y a un sondage Cevipof. Alors, Cevipof, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po qui a effectué sur un panel de 19 000 personnes qui montre chez les Républicains une remontée de Nicolas Sarkozy face à Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui joue tout en ce moment sur l'identité nationale. Pour vous, c'est un thème porteur et qui va continuer?
En tout cas, à droite, je dois constater que c'est un thème porteur. Et d'ailleurs, quel que soit le vainqueur de cette primaire des Républicains, il va laisser le champ politique français dans un état catastrophique. C'est-à-dire que la droite française, par son intermédiaire, est en train de faire la campagne d'extrême droite. D'ailleurs, Marine Le Pen a arrêté de parler. Pour situer le débat, il faut voir ce qui se passe en Allemagne aussi, avec la montée de l'AFD et Angela Merkel qui avait une politique...
L'AFD, en général, on les appelle les populistes.
Voilà, les populistes, l'extrême droite allemande. Et on voit la montée de ce parti... Angela Merkel qui avait une politique d'accueil généreuse, peut-être pas suffisamment expliquée. Donc on est à un tournant en Europe. À la fois, on voit bien qu'il y a la nécessité d'accueillir des migrants, de régler les conflits à nos portes parce que sinon on continuera d'être dans une situation difficile. Et évidemment, les questions que se posent nos concitoyens et les partis qui apportent des réponses simplistes, populistes, xénophobes, qui ont le vent en poupe. Donc tout ça, évidemment, est à mon sens une des questions, si ce n'est la question centrale de l'élection présidentielle.
Mais ce sondage est en effet fantastique du point de vue de l'étude. Quand vous constatez, en additionnant simplement les pourcentages des candidats de gauche et des candidats de droite ou d'extrême droite, c'est que vous avez un rapport de force qui est aujourd'hui de 65-35. C'est-à-dire 65-35.
Oui.
Mais ça, ça a une signification quand même. Et que François Hollande, on peut parler de Nicolas Sarkozy, François Hollande, d'abord, il est très souvent au même niveau que Mélenchon, et ensuite, il est toujours en quatrième position. Donc ça veut dire qu'il est toujours disqualifié.
Oui, bien sûr, mais là on parlait de la première.
Non, mais je comprends.
On parlait de la première à droite. Non,
bon, c'est quand même une réalité,
oui,
ça.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Et juste une dernière chose, justement, Carlos da Silva, on voit de plus en plus de sujets, d'ailleurs, chez nos confrères, autour de gens de gauche. Alors, ils sont presque cachés, disant qu'ils vont voter à la primaire de droite et voter Alain Juppé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Écoutez, moi, je n'en rencontre pas dans la rue, en tout cas, qui me disent qu'ils vont aller voter à la primaire. Moi, je prends les questions une par une. Moi, quand je vois la primaire de la droite, où franchement, hormis les questions, évidemment, et je le disais, qui sont centrales, questions d'identité, identité républicaine, république, vivre ensemble, etc., et des réponses de plus en plus droitières, pour le reste du programme, il me semble pas qu'Alain Juppé fasse pas le figure face à Nicolas Sarkozy sur la suppression des services publics, des postes de fonctionnaires et la libéralisation de l'économie. Donc, de ce point de vue-là, attendons, à mon avis, que la primaire aille à son terme, et là aussi, le champ politique dira la réalité de ce qu'est la droite dans ce pays, et on pourra aussi après intervenir pour remettre du projet, et un projet qui rassemble et qui continue à sauver le modèle social français. Ouais. Donc chaque chose en son temps.
Michel Roy.
À propos des votes qui viendraient perturber la primaire, on a publié dimanche une enquête BVA dans la presse quotidienne régionale qui montre qu'il y a à peu près la moitié des électeurs qui ne se revendiquent pas des Républicains. Et dans ces électeurs, il y a à peu près 12% qui ont voté François Hollande. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de gauche. Ils ont peut-être voté François Hollande par rejet de Nicolas Sarkozy. Oui, ils ne sont pas militants. Ils sont pas. Mais ils ont voté François Hollande. Donc, c'est vrai qu'on voit bien que de l'importance ou du nombre de gens non républicains qui iront voter, le résultat sera très différent.
Il y a un sauf qui est en train de monter à gauche. Le sauf qui peut, c'est on va voter Juppé, parce qu'autrement, on va avoir Marine Le Pen. Tout ça existe en ce moment. Marine Le Pen, dans cette enquête-là, son score le plus bas, c'est 28%. 28%.
Alors là, les gens, en fait, apparemment, les gens de gauche, ça serait davantage contre Nicolas Sarkozy.
Mais non.
Véritablement. Enfin, c'est ça, Annie Giraud.
Non, mais vous n'avez pas vraiment. Je commenterai pas les sondages. Je fais pas un peu curieux, religion de ne pas commenter les sondages, mais vous n'avez pas répondu à la question. Il est vrai que il y a beaucoup de gens, on en entend, on en rencontre énormément, qui à gauche entendent s'inscrire pour aller voter, pas seulement pour faire barrage à Marine Le Pen, mais pour ne pas avoir Nicolas Sarkozy. Au deuxième tour,
c'est vous verrez Carlos quand Asilo. On aura la primaire de la gauche, qu'on aura le même débat et qu'il y aura des gens, y compris, à mon avis, qui auront voté à la primaire au Vert des Républicains, qui viendront influer sur la primaire socialiste. Enfin, moi, je me souviens en 2011, et des gens dans ma commune, que je connaissais comme notoirement dans des électeurs de droite, voire de l'extrême gauche, si on se qualifie de socialiste et de social-démocrate, et qui venaient participer parce que c'était aussi une façon pour eux d'influer la décision. Moi, la seule question que je pose, c'est est-ce que leur proportion est suffisamment importante pour faire varier le résultat ? Et est-ce qu'on a affaire à un électorat aujourd'hui qui est aussi captif qu'il l'était précédemment ? Moi, je considère qu'effectivement, ça varie beaucoup plus qu'on ne croit d'une élection présidentielle à l'autre. Et donc, voire même d'une primaire à l'autre. Moi, je donne rendez-vous dans 3 mois et on verra qu'il y a des gens qui, en fonction du résultat de la primaire des Républicains, prendront position sur la primaire qu'on organisera nous-mêmes.
Oui, parce qu'on se souvient en 2011, il y avait eu beaucoup de papiers qui disaient il y a des tactiques, soi-disant, politiques. En fait, ça s'est pas du tout passé, en fait.
C'était marginal.
Vous ne citez pas la troisième primaire la plus importante, qui est la primaire entre les candidats écologistes.
Ah bah oui, mais ça va arriver au mois d'octobre, et bien sûr, mais c'est important également, François Hollande, vous savez, on va en parler, on en parlera, et vous serez invité, d'ailleurs, pour en parler, on sait que Nicolas Sarkozy aime beaucoup Valeurs Actuelles, puisqu'il a dit que tous les journalistes devaient être comme Valeurs Actuelles, donc en ce moment, vous avez le vent en poupe.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on va parler un peu nature et bien-être. Voilà, ça va nous faire du bien. On s'amuse souvent des politiques, mais ce n'est pas toujours simple d'être un élu local. Il y en a un autour de cette table et il sait de quoi on parle. Bon, prenons Paris. Par exemple, aujourd'hui avait lieu le Conseil de Paris. On y parle budget, amélioration de la vie quotidienne, démocratie locale et même de naturisme. Et oui, hein, naturiste, le premier adjoint d'Anne Hidalgo se dit favorable à la création d'un espace pour accueillir celles et ceux qui aiment sentir le vent glisser sur le poil en rut. Et une nouvelle polémique s'enclenche. Faut-il vraiment s'y engager? On hésite un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, en ce même Conseil de Paris, la majorité a voté pour la fermeture des voies sur berge, la piétonnisation donc de la voie dite Georges Pompidou, une décision historique pour Anne Hidalgo, expliquée par son adjoint au transport, Christophe Nadjoski.
Il faut bien comprendre que ça n'est pas en multipliant les voies de circulation et les voies autoroutières dans nos métropoles, dans nos grandes villes, que l'on va combattre la pollution. La voie sur berge, elle a été pensée il y a 50 ans, à l'époque où il fallait faire circuler les voitures par les centres-villes. Et à l'époque, on ne parlait pas de la question du climat. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on a changé d'ère, et il nous faut donc prendre à bras le corps cette question. Et donc c'est la raison pour laquelle nous prenons cette mesure qui est une mesure donc qui doit se regarder d'un point de vue global et sur le long terme.
Voilà, Christophe Nadjoski, adjoint au transport d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Alice Géraud, on reproche souvent à Anne Hidalgo son côté autoritaire. Elle passerait en force, d'après vous, ce genre de projet? C'est du passage en force?
Il y a un vote, donc non, on n'est pas sur du passage en force. Mais de toute façon, l'expression n'est pas mauvaise, parce que la question de la réduction, la coupure des voies sur berge, et donc la réduction de la place de la voiture, c'est effectivement de faire passer en force, et on parle beaucoup des voitures berges parce que c'est parisien,
c'est ça, ouais.
Mais dans toutes les grandes villes de France, je dis aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est ce qu'on fait, on réduit la place de la voiture, on la contraint, c'est pour ça qu'on a remis des lignes de bus en couloir propre, c'est pour cela qu'on reconstruit des lignes de tramway qui avaient disparu depuis 100 ans, c'est pour contraindre la place de la voiture, et on s'aperçoit que ça fonctionne, la contrainte fonctionne en fait, voilà.
C'est-à-dire jusqu'au point, en fait, c'est dégoûter presque les gens de prendre leur voiture,
C'est une mécanique des fluides et ça fonctionne plutôt bien. On en fait un petit peu un pataquès quand il s'agit de Paris, mais c'est ce que font toutes les grandes villes de France.
Alors, Caruso da Silva, en tant qu'élu local, vous êtes élu justement dans la périphérie parisienne, donc à Évry, donc juste pour situer, c'est aussi
Corbeil-Essonne.
Voilà, Corbeil-Essonne. Donc c'est au sud de Paris. Forcément, vous-même, il y a beaucoup de maires en périphérie parisienne qui ne sont pas contents de cette fermeture. Ils disent tout va se reporter sur nous. Il n'y a pas eu de concertation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Il y a deux sujets. D'abord, Anne Hidalgo, elle est maire de Paris et donc elle a des décisions à prendre, elle a une majorité pour les prendre. Et la question de la pollution dans les grands centres urbains, elle est évidemment centrale et de ce point de vue-là, je la soutiens. Il y a un deuxième sujet, c'est la place de Paris dans la région Île-de-France. Et il est évident que tout ce qui permet à Anne Hidalgo ou aux maires de Paris, aux élus de Paris, de dialoguer avec nous doit être renforcé. Or, qu'est-ce que je note? C'est que en réalité, ceux qui ont permis qu'il y ait un dialogue, et même s'il faut l'approfondir sur ce sujet, c'est pas la droite. La droite, elle a jamais fait le syndicat Paris Métropole. Elle a jamais cherché à au fond décloisonner. Je vais au bout. Donc moi, tant que la piétonnisation, elle ne gêne pas la circulation en grande couronne, tant qu'il y a un renforcement de l'investissement des transports en commun, ça me va bien. C'est ça le sujet central. Après, est-ce que aujourd'hui il y a une influence entre les 3,3 km du centre de Paris et ce qui se passe à Corbeil-Essonnes? Honnêtement, j'en suis pas sûr.
Oui, d'accord. Ça touche plus la petite couronne. En fait, on voit les maires.
Et par ailleurs, je le dis, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Paris Métropole, où le syndicat et la métropole du Grand Paris. Et donc, il faut l'utiliser pour que le dialogue se renforce et que les transports en commun aussi.
Michel Urvois.
Anne Hidalgo a raison de vouloir purifier l'air et soigner ses électeurs.
Oui, mais en même temps, il y a quand même 6500 décès à Paris à cause de la pollution.
Non, c'est pour ça que je dis qu'elle a...
C'est laquelle des...
Non, mais c'est pour ça que je dis qu'elle a raison de le faire. Il y a 4 voitures sur 10 qui roulent, il y a une personne dedans. Enfin, on transporte une tonne, on fait rouler une tonne pour transporter une personne de 60 kilos. On marche sur la tête. Mmh. Et la plupart de ces voitures ne font que 3 kilomètres. Bon, donc là, ça veut dire que ça, il y a de la responsabilité individuelle là-dedans. Il faut que les gens regardent comment on peut essayer, chacun, de faire autrement. Et il y a de la responsabilité collective. On ne peut pas, quand on dirige une ville-centre, en l'occurrence Paris, 2 millions d'habitants, prendre des décisions qui modifient, qui bouleversent ou qui empêchent la vie de 12 millions de franciliens. Donc je pense que ce que disait Carlos da Silva, c'est la question de la compétence transport.
Ouais,
et travail et logement d'ailleurs.
Ouais.
C'est vraiment, pourquoi les métropoles ont été créées? C'est bien dans cet esprit-là. C'est pour prendre en compte toutes les contraintes, essayer d'organiser au mieux la vie. Ouais. Et là, on fait quelque chose qui vient heurter ce fonctionnement-là.
François Orcival.
Je vais vous surprendre, mais Georges Pompidou, oui. n'était pas un anti-écolo, comme on croit, parce que sous prétexte qu'il était partisan de la liberté et de la voiture. Je vous assure que vous avez beaucoup de textes de Georges Pompidou sur, sur les
c'est,
routes, les arbres, etc.
Alors, je rappelle etc. juste, c'est pas lui qui... Attendez, attendez, c'est pas lui qui a nommé sa propre voie. Hein, c'est ensuite, on l'a nommé. Voilà, c'est pas...
Et donc, cette voie, elle est fermée.
Mais il avait
donc...
l'idée quand même de traverser tout Paris par une autoroute. C'est ce qu'on appelait la voie Vercingétorix à l'époque. Donc,
ah non, ça c'était la verticale, c'était
oui,
pas
bah
du tout celle-là.
Mais oui, d'accord, mais c'était un peu plus...
Ça, c'était autre chose.
Côté écolo.
Mais celle-là qui longeait la Seine. Pourquoi a-t-elle été inventée? Mais évidemment pour éviter les embouteillages. C'était ça son but. Or, la pollution, c'est d'abord l'embouteillage.
Oui.
Pour le moment, nous sommes dans la phase décidée par Madame Hidalgo d'embouteiller un certain nombre de secteurs de Paris, pas les siens politiquement, hein, pas les siens politiquement, mais d'embouteiller un certain nombre de secteurs pour dissuader
les autres. Vous pensez qu'il y a un complot à la pollution, finalement,
non,
à Paris?
Il n'y a pas un complot. Bah, il n'y a pas besoin de complot. C'est une décision politique. Il y a un certain nombre de ces arrondissements qu'elle protège, et les autres, qui sont des arrondissements de droite, elle s'en fout. Et c'est bien calculé. C'est calculé jusqu'à la prochaine élection.
Allez, Géraud, est-ce que vous pensez justement que ça suffira à lutter contre la pollution?
Non, ça suffira pas. Non, pas du tout. Mais enfin, je reviens sur les voies sur berge. On avait fermé l'autre côté, ça a fonctionné. Là, on ferme l'autre rive des berges. Ouais. Ça fonctionne. Je crois qu'à chaque fois, on s'aperçoit à terme que ça fonctionne. On n'a jamais réouvert en fait des voies, quelle que soit la ville, parce que ça fonctionnait pas. On s'aperçoit que ça fonctionne en fait. Donc voilà, elle continue. Elle a fait une rive, elle fait l'autre.
Oui, c'est ça. Oui, Caro Sylvain.
Non, mais la particularité, il y a une particularité à la ville de Paris, c'est que la ville de Paris n'est pas que la ville des Parisiens. Elle est évidemment une ville monde avec le tourisme, etc. Mais c'est la ville de tous les Franciliens. Donc, encore une fois, moi j'insiste, non pas on ne rouvrira jamais ces voies sur berge, il fallait les fermer, ça va créer des embouteillages pendant quelques semaines et puis après, ça va se dévier et les gens vont s'organiser autrement. Mais moi, si je veux plaider à l'occasion de ce débat pour quelque chose, c'est qu'au fond, les décisions qui concernent l'ensemble de la région Île-de-France soient prise par la maire de Paris quand elle concerne le territoire des Parisiennes et des Parisiens, mais en concertation. Et tout ce qui peut aider à développer la concertation et à réfléchir qu'effectivement, un Corbeil-Essonnois ou un Évrien, au fond, il a aussi à voir avec la ville de Paris, avec la vie dans Paris, et va dans le bon sens.
Ben là, malheureusement, vous êtes trompé de maire, hein, parce que c'est pas la concertation.
Madame. Alors, une dernière chose, M. Hervois, est-ce que ça veut dire aussi que les Français, en ce moment, il y a une réflexion autour de la voiture? C'est-à-dire qu'en dehors de certains endroits en France où, bien sûr, on est obligé d'avoir une voiture parce qu'on est isolé, mais c'est-à-dire que dans les villes, aujourd'hui, ça ne sera plus comme avant.
Il y a une évolution. Il y a le salon de l'automobile qui va ouvrir porte de Versailles. Et pour la première fois, il y a des marques qui ne viennent pas. Comme le comportement, je pense, par rapport à la voiture est en train de changer. La notion d'usage, de partage, se répand, se développe. La notion d'achat, je pense, peut régresser.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Alice Géraud du journal en ligne Les Jours, également le député et conseiller régional d'Île-de-France socialiste Carlos Da Silva, Michel Hervois de Ouest-France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Allez, on a encore quelques minutes pour parler de l'événement de la nuit, car cette nuit, être insomniaque vous permettra d'être mieux informé, car le premier débat de la présidentielle américaine Clinton-Trump sera diffusé à 3h du matin en France. Bon, pas sûr que ça vous aide à dormir, mais c'est intéressant, hein. Pour la première fois, les deux candidats vont s'affronter dans un débat qui se tiendra dans une université à côté de New York. Un débat particulièrement attendu dans un contexte particulier où attentats et armes en vente libre occupent désormais la une de l'actualité. On décrit Hillary Clinton comme fragile, Donald Trump comme imprévisible. Devant près de 90 millions de spectateurs, on s'attend à une forte opposition tant les deux candidats sautent aux antipodes. Et c'est vrai que Donald Trump, lui, a une devise très simple pour dire comment se préparer à ce débat, tout simplement de dire qu'il ne faut pas trop le préparer puisqu'il faut être spontané. Est-ce que Alice Géraud, là on est vraiment dans le personnage Trump, justement de ne pas se préparer pour un débat, d'être spontané? C'est là où il est...
Jusqu'ici, alors lui, il n'a pas une grosse expérience, contrairement à Hillary Clinton, ouais. des débats, donc ça va être, on sait pas exactement comment ça va se jouer, mais quand il dit ne pas se préparer, c'est jusqu'ici, ce qu'il a joué, c'est de démonter le système du débat, décrédibiliser le modérateur. Donc là, aujourd'hui, on sait pas exactement, peut-être qu'il jouera le jeu, mais il y a peu de chances, effectivement, c'est pas ce qu'il a annoncé.
Bah, le modérateur du débat, il l'a accusé d'être démocrate, en fait, il est républicain.
Oui, il a raconté n'importe quoi,
voilà,
absolument.
Ouais, ouais. François Orcival, justement, ces débats, pour vous, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du show avant tout, avant d'apporter véritablement des électeurs ou au contraire moins d'électeurs.
Oui, c'est du show, bien entendu. Mais, comme d'habitude, il y a deux personnalités. Deux personnalités, pour la première fois, elles sont, non pas face à face, mais tout de même dans un dispositif tel qu'on va pouvoir les comparer au même moment. Mmh. Au même moment. Et c'est la raison qui fait que vous avez 100 millions de téléspectateurs qui vont regarder ce premier débat. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on va voir en vrai ce que Trump est capable de dire à Hillary Clinton. Or, jusqu'à présent, il y a simplement 5 semaines, l'écart des sondages pour l'un par rapport à l'autre était considérable. Vous aviez 8 points d'écart en faveur d'Hillary Clinton. Mmh. Aujourd'hui, cet écart, il est réduit à rien du tout. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce débat est décisif, parce que si l'expérience étant celle de Hillary Clinton, comme vous l'avez dit il y a un instant, et l'inexpérience apparente étant du côté de Trump, si celui-ci change la méthode qui est la sienne, ou que au contraire il convainc, alors oui, ça va avoir une influence.
Alors Michel Hurvoy, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vu beaucoup Donald Trump parler en slogan. C'est vrai, quand on voit ses discours, il ne donne que des phrases, c'est-à-dire en bon, finalement, communicant, comme il a su le faire, en présentant notamment des téléréalités. Là, ça va être des phrases normalement plus construites, un peu plus longues qu'un tweet, quoi.
Oui, mais toute la question est de savoir si c'est la passion ou la raison qui va l'emporter. Trump, c'est un homme de spectacle, il est capable de formules, il est capable de postures, il est capable d'énormes approximations, si je peux m'exprimer ainsi. Et Hillary Clinton, c'est plutôt la raison, l'argumentation, la connaissance des dossiers. Mais qu'est-ce qui aura de l'impact sur l'opinion? Je ne suis pas sûr que le rationnel, dans des moments comme ça, soit forcément la meilleure arme. Donc, tout peut se passer cette nuit.
Carlos Silva, vous êtes attentif, vous, justement?
Très attentif. Bon, d'abord, je vais décevoir François d'Arcival. Quand on regarde les sondages état par état décisif, c'est beaucoup moins serré qu'il n'y paraît.
Il n'y a plus que 33.
Non, mais même voilà. L'écart est moindre aujourd'hui qu'il y a quelques jours. Non, moi, c'est la question que je me pose et que je crois qu'on doit tous se poser, c'est comment dans une grande démocratie, parce que les États-Unis sont une grande démocratie, bien quelqu'un qui raconte absolument n'importe quoi. Je regardais un sondage, non pas électoral, mais un sondage de fact-checking, comme on dit en anglais, où on vérifie ce que disent les gens. Donc il a une proportion où tous les médias, d'ailleurs, qu'ils soient républicains ou démocrates, disent ce type dit n'importe quoi, en arrive à un point où on se pose la question de savoir s'il peut emporter l'élection présidentielle. Et donc cette mécanique que dans une grande démocratie, avec des citoyens très éduqués, on en arrive là, doit collectivement nous interroger. Ça, c'est la première question, en tout cas, que moi, je me pose en regardant cela. Deuxièmement, c'est évidemment les conséquences qu'aurait l'élection de Donald Trump sur la Syrie, sur la politique internationale, sur cette voie dans le monde, qui est une voie, même si, évidemment, elle est affaiblie, parce qu'on est moins dans les polarités qu'on connaissait précédemment. Et c'est ça. Que deviendrait, si vous voulez, au fond, la géopolitique? Parce que ça déformerait absolument tout. Et donc, à la fois l'interrogation de quelqu'un qui raconte n'importe quoi et qui peut être élu à la tête d'une grande démocratie, et en même temps ce que ça peut avoir comme conséquence, évidemment, comme politique français, je m'y intéresse.
Moi, je crois que, du point de vue de la politique mondiale, ça ne changera pas grand-chose, que ce soit Hillary Clinton ou lui. D'abord,
un appui peut-être à Vladimir Poutine davantage du côté de Donald Trump.
Il y a une énorme administration qui est là, etc. Mais le point central, c'est que tous les deux, Hillary Clinton, comme lui plaide pour le repli, mais Hillary Clinton l'a déjà entrepris.
En tout cas, c'est à suivre ce soir le débat Hillary Clinton face à Donald Trump. Ça sera sur France Info à partir de 3h. Un débrief d'ailleurs vous sera offert dès 5h du matin. Et bien sûr, on reviendra sur les principales annonces de ce débat demain dans les informés de France Info. Merci beaucoup en tout cas à Ligero Desjours d'être passé ce soir. Et bien sûr, à consulter desjours.fr dès l'instant. Maintenant, on peut y aller tout de suite. Merci à Carlos da Silva d'être passé. Un petit coup d'œil à nos partenaires. Michel Hurvoy, la une de Ouest France demain.
Le chômage, la Syrie et puis un sujet Bolloré qui veut monter de plus en plus haut chez le géant mondial du jeu Ubisoft. Ce sont deux hommes de l'Ouest.
Suivez demain donc bien sûr dans Ouest France. François Orcival, valeurs actuelles.
Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah.